La circoncision est un geste absolument essentiel dans le judaïsme. Or, les chrétiens ont tendance à mépriser cette chose d'une façon remarquable en considérant que ça ne nous concerne pas et que ça ne concerne que les juifs. Or, je crois que de traiter aussi rapidement la question est une erreur. Parce que d'abord, les chrétiens, d'une certaine façon, sont des juifs, et le christianisme ne consiste pas à faire une sorte de trait rageur sur tout l'Ancien Testament en disant que tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament ne nous concerne pas. Il ne s'agit pas de remplacer l'ancienne alliance par une nouvelle, mais plutôt de la compléter. Or, s'il est vrai que les chrétiens aujourd'hui ne pratiquent pas la circoncision dans la chair, néanmoins, les épîtres de Paul en particulier ont de très nombreux passages qui nous parlent de l'importance de la circoncision du cœur. Et donc la question, c'est bien celle-là, c'est que signifie exactement la circoncision pour les juifs ? Non pas pour la pratiquer nous-mêmes physiquement, mais au moins pour en comprendre le sens et pour savoir soit pourquoi nous ne le faisons plus et soit comment nous pourrions le faire au moins spirituellement ou la réinterpréter. Or, cette circoncision que l'on voit apparaître dans le livre de la Genèse, donc au chapitre 17, est donnée à Abraham comme un signe d'alliance. Et à ce moment-là, il se passe pas mal de choses. Il se passe d'abord que son nom est changé, de Abram, il devient Abraham, et puis il se passe aussi qu'à ce moment-là, enfin, son épouse Sarai, qui deviendra Sarah, pourra enfin enfanter et donner naissance à Isaac, qui est l'enfant héritier de la promesse. Il y a donc là, au moment de la circoncision, une sorte de basculement absolument essentiel dans la vie d'Abraham, qui enfin devient fécond. Pour les Juifs, je vous l'ai dit tout à l'heure, la circoncision est le signe essentiel de l'appartenance. Et être circoncis, cela veut dire que l'on appartient au peuple élu. Et être circoncis, cela veut dire que l'on bénéficie de cette promesse de Dieu qui était simplement la fécondité. Mais la fécondité, si l'on revient à cela, la fécondité, ce n'est pas simplement d'avoir de nombreux enfants. La fécondité, il est évident que c'est une question de fécondité spirituelle. Parce que, en effet, Abraham, avant la circoncision, avait déjà un enfant. Ismaël était bien son enfant dans la chair. Et par Ismaël, Abraham pouvait très bien se multiplier énormément et avoir beaucoup d'enfants et avoir une descendance considérable. Mais ce qui lui manquait, c'était la postérité spirituelle, c'est-à-dire d'avoir une descendance non pas purement biologique, mais de transmettre quelque chose qui est de l'ordre de justement de la foi, des valeurs, et une postérité, je dirais, au niveau des valeurs de la foi et de l'esprit. Et c'est cela que représentera Isaac. Et de même, cette descendance, nous prétendons en faire partie nous aussi, nous qui nous prétendons les descendants d'Abraham, alors que nous n'avons pas forcément de sang juif dans nos veines. Donc oui, c'est bien cette circoncision qui est le signe pour les juifs de l'appartenance au peuple élu et du fait que Dieu offre la fécondité, offre de se multiplier. Dans une alliance, normalement, Dieu offre quelque chose, mais demande quelque chose en échange. Alors là, qu'est-ce que Dieu demande à Abraham ? Eh bien, en fait, rien. C'est ça qui est assez étonnant. Dans cette alliance, c'est une sorte de demi-alliance. Dieu ne réclame rien à Abraham. Pour Noé, il y a ce qu'on appelle l'alliance noachique. Dieu avait exigé de Noé un certain nombre de choses. C'est les lois que les Juifs, aujourd'hui, considèrent être demandées aux païens. Une sorte de chose minimum, de base pour vivre sur terre. Ensuite, quand Moïse fera encore une alliance, il y aura là des avalanches de commandements. Il faut obéir à la loi, et si vous obéissez bien à la loi et à la parole, alors Dieu pourra vous favoriser. Là, il n'y a rien. La seule chose que Dieu demande, c'est de marquer cette grâce par un signe qui est celui de la circoncision. Autrement dit, la circoncision est vraiment le signe de la grâce de Dieu. Dieu qui promet, Dieu qui donne, Dieu qui offre, et qui ne demande rien d'autre que de marquer cela, d'une certaine façon dans sa vie et dans sa chair. Et d'ailleurs, c'est assez remarquable que quand Dieu propose cette alliance, là encore une fois, nos traducteurs sont fautifs parce qu'ils traduisent en général n'importe comment. Le texte là utilise un verbe qui n'est utilisé que là. En général, le texte hébreu dit que Dieu contracte une alliance avec quelqu'un. Et il dit « Je ferai une alliance avec toi ». C'est ce que disent nos traductions. Mais là, exceptionnellement, il n'y a pas « Je ferai alliance avec toi ». Mais le texte dit bien, de la part de Dieu, « Je te donne une alliance ». Il y a le mot « donner ». « Je te donne une alliance » et non pas « contracte ». Et donc c'est vrai qu'il y a là encore la notion de « don ». Et c'est de là que ce signe de la circoncision est présenté comme le signe de la grâce, par définition. La grâce de quelque chose qui est offert. Et la seule chose que Dieu demande, c'est de dire ce qu'il faudrait, c'est que vous vous souveniez quotidiennement du fait que vous êtes sous la grâce et que quelque chose vous a été offert et que votre vie en soit marquée. Parce que c'est peut-être la seule chose que Dieu nous demande, de dire voilà, vous êtes dans la grâce et vous pouvez appartenir à ce peuple de la grâce, à ce peuple auquel il a été fait un cadeau et un don. Et pour appartenir à ce peuple, eh bien, ce que Dieu dit, il faut que vous en fassiez une sorte de principe de base. Et le principe de base, quelque chose de fondamental, la marque d'appartenance qui soit même gravée dans vos vies, dans votre chair, c'est de dire « vous êtes sous la grâce et cela vous a été donné ». Et donc c'est ça le point de départ d'un peuple qui se définit comme le peuple de la grâce. Et on dit « voilà, vous circoncirez tout enfant à l'âge de 8 jours ». Mais à l'âge de 8 jours, un enfant, on lui offre d'appartenir au peuple de la grâce. Ce n'est ni ses mérites, ni sa possibilité d'avoir obéi à quelque commandement que ce soit, ni d'avoir été pieux, ni d'avoir été juste, ni d'avoir été bon, ni d'avoir été fidèle. Un enfant de 8 jours n'est ni pieux, ni juste, ni fidèle. Il est, et c'est tout. Et on lui dit, « Eh bien, mon enfant, tu peux entrer dans la grâce. » Et cette grâce, elle t'est offerte. Et tu appartiens au peuple élu, tu appartiens au peuple de ceux auxquels Dieu se donne, simplement comme ça, parce que ça t'est offert. Et ça, c'est très, très essentiel. En général, on dit que les chrétiens ont remplacé le signe de la circoncision par celui du baptême. Et c'est tout à fait vrai. Le baptême, pour les chrétiens, c'est une façon de dire, eh bien, cet enfant, il entre dans la grâce de Dieu. Il entre dans le peuple de Dieu. On ne fait pas de lui un chrétien de force, il verra après s'il veut ou non être chrétien. Mais on dit, il est au bénéfice de cette grâce, au bénéfice de cet amour que Dieu offre à son peuple, à sa naissance, à 1 mois, à 2 mois, avant même qu'il ait pu répondre, avant même qu'il ait pu faire quoi que ce soit ou avoir quelque mérite que ce soit. C'est quelque chose qui est offert en premier, tout de suite et sans condition. Alors ça, c'est ça, effectivement. Et Dieu dit, ben écoutez, non seulement ça vous est offert, mais en plus, mais il faudrait quand même que vous en soyez marqué. C'est-à-dire de ne pas simplement se dire « Oh, bon, ça tombe bien, j'ai la grâce, je suis aimé, c'est merveilleux ». Mais non, que ce soit marqué dans ma vie et que ma vie soit marquée par la grâce et que cette idée de la gratuité, ce soit quelque chose qui soit marqué au plus profond de ma chair et que en moi-même, c'est mon principe, c'est ma marque, je suis marqué au fer rouge par la grâce. C'est quelque chose qui implique toute ma vie. C'est comme ça même que c'est ce qui va définir ma vie. C'est le symbole, c'est la base, c'est l'étendard, ma raison d'être que d'être la grâce. Et je dois me rappeler de cette grâce qui m'a été faite tous les jours de ma vie. C'est ça notre seule exigence, je dirais. Et effectivement, c'est cela, je crois, qui peut donner la fécondité de la vie. Ce savoir aimer et être dans la gratuité. Et en faire non pas quelque chose dont on profite, mais en faire un principe même de vie. Alors pour cela, Dieu lui propose un signe. Ce signe, à la limite, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, effectivement, mais pourquoi celui-là en particulier ? Eh bien, parce que on peut trouver de nombreuses raisons. D'abord parce que l'on peut dire que ce signe qu'il a voulu faire, c'est de retirer quelque chose. De retirer quelque chose, je dirais, de matériel et de non indispensable, ni à la vie, ni à la fécondité matérielle d'ailleurs, ni à grand-chose. Et en même temps, donc je retire quelque chose de ma vie, je retire, j'ôte, je fais de la place. Et en même temps, Dieu, lui, va ajouter quelque chose. Donc Abraham enlève quelque chose et Dieu rajoute quelque chose. Qu'est-ce que Dieu rajoute ? Il rajoute un H dans son nom. De Abraham, il devient Abraham. Et ce H, une petite lettre qui n'est pas grand-chose, une petite lettre qui n'est rien, quelle est-elle ? Eh bien, les bons commentateurs rabbiniques disent que ce H, c'est une petite lettre qui, dans le fond, ne se prononce pas, mais qui n'est qu'une aspiration, c'est vrai. C'est une lettre qui n'est presque rien, qui n'est qu'un souffle. Et cette lettre, c'est une sorte de rien matériel. D'ailleurs, même en français, le H, bien souvent, ne se prononce pas, sauf quand il est aspiré, c'est-à-dire que c'est une aspiration. Et peut-être qu'il rajoute, justement, c'est ce que disent les commentaires rabbiniques, que Dieu rajoute dans Abraham une dimension du spirituel, quelque chose qui rajoute de l'esprit, une aspiration, un souffle, une certaine dimension spirituelle. Il rajoute dans le nom même d'Abraham une grâce. Et que cette grâce, elle doit se faire en même temps de la part d'Abraham par une sorte de dépouillement. Je retire quelque chose de moi-même. Et je sais retirer de moi-même un certain superflu, quelque chose qui ne sert à rien. Évidemment, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de l'acte purement physiologique, je dirais, de la circoncision, mais de ce qu'il peut représenter, de dire dans ma vie, il y a des choses que je peux retirer. Et autrement dit, là encore, on est dans une démarche qui finalement a été extrêmement développée par le christianisme. Être sous la grâce et vivre dans la relation à Dieu, ce n'est pas pour moi essayer de rajouter des choses, comme si on devait être de plus en plus riche en bonnes œuvres, de plus en plus riche en bonne foi, en bonne piété, en bonne prière, en bonne pratique. Mais se mettre en bonne relation à Dieu, c'est retirer quelque chose, faire un vide, retirer le superflu, retirer ce qui m'encombre, ce qui ne me sert à rien, retirer ce qui me bloque et qui m'empêche d'être en relation directe avec Dieu, faire de la place. Et peut-être aussi, d'une certaine façon, savoir que l'on n'est pas grand-chose et accepter de se faire plus faible encore, d'être encore plus pauvre et démuni que naturellement, parce que l'on ne compte pas sur sa protection à soi, mais d'une certaine façon, on compte sur Dieu lui-même. Alors maintenant, on pourrait continuer à chercher, de se dire pourquoi ce signe-là particulièrement. Dieu aurait pu lui demander de se dépouiller d'autres choses qui ne servent pas forcément à grand-chose dans sa vie. Là-dessus, il y a beaucoup d'explications. Certaines ont trait à la sexualité, à la fécondité, bien sûr, et en particulier sur le fait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant avec Sarai ou je ne sais quoi. Bon, ces explications ne sont certainement pas fausses, mais je crois qu'elles sont insuffisantes et qu'elles n'expliquent finalement pas grand-chose. Parce que le peuple juif ne se définit pas par rapport au fait de pouvoir ou non faire des enfants à sa femme, et que la question de la sexualité n'est pas la question fondamentale, je dirais, de l'Alliance. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond là-dedans. En particulier, ce qui est assez intéressant, c'est que au début, si Dieu quand même lui demande quelque chose à Abraham, il lui dit... Marche en face de moi, bon, très bien, et sois parfait. Ça, c'est assez curieux. Sois parfait, parfait. Tamim au pluriel, même parfait, parfait, le parfait de la perfection. Ça, c'est quand même très difficile. Ce qui veut dire, tam en hébreu, ça veut dire parfait ou complet, achevé. Sois complet et achevé. Or, c'est pas vraiment une demande, puisque Dieu le sait, c'est impossible à l'homme d'être parfait. Et ce n'est donc pas non plus une condition pour l'accès à l'Alliance. Alors qu'est-ce que Dieu a voulu dire ? Eh bien, peut-être que ce que Dieu a voulu dire, c'est justement expliqué dans la circoncision. Pour être accompli, pour être parfait, il faut qu'Abraham enlève quelque chose de soi. Ce qui montre que ce n'est pas par ses propres moyens que l'on peut arriver à être parfait, mais que pour être parfait, il faut au contraire assumer son manque et savoir que l'on ne peut que le recevoir d'un autre. Et c'est ça symboliquement la circoncision. Ne pas chercher à se protéger soi-même, mais compter sur Dieu pour la protection. Ne pas se cacher, ne pas chercher à combler ses manques, mais au contraire assumer ses manques, en pensant que c'est dans ses manques, dans ses faiblesses de ma vie, que l'autre a une chance de pouvoir vivre. Que c'est en faisant de la place, en reconnaissant mes propres imperfections et ma propre faiblesse, que l'autre, lui, pourra vivre et que même Dieu pourra venir agir dans ma vie, lorsque je renonce justement à accomplir moi-même toute chose. Et ça, c'est bien dit dans le Nouveau Testament, et de très belle manière, en particulier par ce passage de Paul en 2 Corinthiens 12, qui est, je crois aujourd'hui, le passage qui pour moi m'est le plus cher. Quand Paul justement explique qu'il a découvert à quel point il était faible, et à quel point il avait du mal dans sa mission et dans sa vie, et qu'il entend cette parole venant de Dieu lui dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et, dit Paul, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est pourquoi, dit-il encore, et je crois que c'est là le plus beau commentaire qui soit de cette circoncision du cœur, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour le Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais alors si cette circoncision est si belle, si c'est un si merveilleux signe de l'alliance, signe de la grâce, de l'appartenance à ce peuple, de l'amour de Dieu, pourquoi les chrétiens ne le font-ils plus ? Pourtant, nous croyons à l'alliance de la grâce, peut-être même plus que quiconque. C'est là-dessus que le christianisme s'est construit, en quelque sorte. S'il y a une alliance à garder dans tout l'Ancien Testament, c'est celle-là. Et quel est pour nous le signe de l'appartenance à ce peuple de la grâce ? Alors la réponse, je vous l'ai dit, pour nous aujourd'hui, c'est le baptême. Oui, c'est vrai que depuis Calvin, on dit que le baptême, c'est l'équivalent de la circoncision pour les Juifs. Mais pourquoi avoir changé ? Alors historiquement, on voit dans les Actes des Apôtres pourquoi les chrétiens ont abandonné la circoncision. C'était en fait une façon de relativiser la réalité par rapport aux signes. C'est-à-dire, les chrétiens ont beaucoup milité pour dire l'important, ce n'est pas le geste, bon voilà, on vous a coupé un prépuce et donc vous êtes dans le peuple élu, de dire non, ce n'est pas ce geste matériel et concret. Et sans arrêt, les premiers chrétiens militent pour dire l'essentiel, c'est la circoncision du cœur, c'est-à-dire c'est la démarche personnelle, intellectuelle, spirituelle, intérieure, et c'est ça qui compte, parce qu'à ce moment-là, il y avait trop de gens qui finissaient par croire que le simple fait d'avoir été circoncis matériellement avec des ciseaux à huit jours donnait sens à sa vie. Et les chrétiens disent non, c'est pas ça qui compte, ce n'est pas le geste, ce n'est pas le symbole, c'est la réalité qui est derrière. Et les chrétiens très vite ont compris que les gestes eux-mêmes, que les symboles, que les rites et les sacrements d'une certaine façon présentaient des dangers lorsqu'ils étaient pris comme des valeurs en soi-même et qu'ils faisaient finalement obstacle, qu'ils masquaient la réalité spirituelle qui était derrière. Donc les chrétiens ont voulu dire non, finalement on préfère enlever cette chose dangereuse qui risque de faire écran pour ne garder que la réalité spirituelle qui est derrière. Et c'est pourquoi ils ont préféré dire « ben non, l'important c'est la démarche intérieure ». Et puis finalement, ils ont pris un signe quand même, parce que c'est difficile de se passer de signe, surtout pour dire des choses aussi importantes. Alors pourquoi n'ont-ils pas pris le même ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord parce que le signe de la circoncision était, je dirais, trop important ou trop fort par rapport au corps, et qu'il est bon que les chrétiens aient choisi un signe plus léger, plus ténu. Parce qu'en effet, circoncire, c'est violent, c'est dur, c'est fort, c'est présent dans le corps. Et donc on risque de croire que c'est ça l'important. Alors que mettre 3 gouttes d'eau sur le front d'un enfant, tout le monde comprend que ça ne sert à rien matériellement. C'est donc de prendre un risque moins efficace, peut-être moins présent, et qui risque moins de faire obstacle par rapport à cette réalité. Et puis peut-être aussi que surtout, une autre valeur essentielle de notre baptême par rapport à la circoncision, c'est que non seulement il ne mutile pas le corps, ce qui est quand même important, et que d'autre part, le baptême est équilibré homme et femme, alors que la circoncision ne concerne que les garçons. Et ça, il n'y a aucune raison d'avoir un signe qui ne soit pas, je dirais, pour les deux sexes à la fois. Pour nous chrétiens, oui, c'est vrai, l'important, c'est de retrouver le sens de ce signe. Et en effet, je crois que l'important, ce n'est pas le geste lui-même, et même si le signe n'est plus fait concrètement, l'important, c'est quand même de ne pas oublier le sens de cette circoncision, et vraiment de penser à être, comme dit Paul, des circoncis de cœur. Bon, c'est la même chose pour le sabbat. Oui, nous ne respectons pas le jour du sabbat. Pourtant, c'est l'un des 10 commandements, hein, quand même. Mais ce n'est pas parce que nous, voilà, on ne le respecte pas bêtement, à la lettre, en disant « le samedi, je ne ferai rien ». Mais on dit « oui, c'est l'esprit de l'affaire qui compte ». Ne pas oublier de garder un temps pour Dieu, de mettre à part un moment pour ne rien faire, simplement faire de la place et accueillir la puissance de Dieu dans sa vie. Finalement, la circoncision du cœur n'est autre qu'un grand sabbat de toute l'existence, de faire de la place, d'enlever quelque chose pour que Dieu puisse venir. Le juif, nous dit Paul dans son épître aux Romains, chapitre 2, 28, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non la lettre. Et la louange de celui-là ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Oui, faire de la place pour Dieu, certes, et puis peut-être aussi faire de la place pour Dieu en pensant qu'il ne faut pas tout faire soi-même. Et pourtant, quand même, laisser à Dieu la juste place. Renoncer à une partie de soi-même, oui, c'est vrai, mais quand même ne pas renoncer complètement à soi-même en laissant à Dieu toute la place. Et c'est vrai que quand on regarde toute cette histoire d'Abraham qui est compliquée avant d'en arriver à cet état, on se rend compte que la circoncision définit merveilleusement notre propre rapport à Dieu. Parce qu'il s'agit certainement de faire de la place à Dieu, mais en même temps, il ne faut pas renoncer complètement à soi-même. Et si on reprend le côté un peu concret et matériel du geste, il s'agit pour Abraham de trouver la fécondité. Alors on lui dit, bon, il faut que tu retires quelque chose. On retire, mais on lui demande pas quand même de couper tout en disant « compte sur Dieu, et puis lui te rendra fécond s'il le veut, il pourra faire avec Sarai, comme certains chrétiens prétendent que Dieu l'aurait fait avec la Vierge Marie. À quoi tu sers, toi ? À rien ! » Non, 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 Dieu ne demande pas de tout couper, on enlève juste le petit bout qui ne sert à rien, c'est ça. Et ça, c'est très important, parce qu'en effet, Abraham, il avait eu depuis longtemps cette promesse de fécondité. On lui a dit, voilà, tu auras une descendance nombreuse. Alors Abraham attend, et rien ne se passe, rien. Alors Abraham se dit, bon, il y a un problème, peut-être que Dieu veut que j'agisse moi-même. Alors il se dit, voilà, c'est ça que je dois faire. Alors il prend sa servante, il lui fait un enfant, Ismaël. C'était pas ça non plus. Et en fait, il avait fait deux erreurs, Abraham. La première, c'était, je dirais, de tout enlever de lui-même en disant j'attends que Dieu fasse tout, je me dépouille complètement et je laisse toute la place à Dieu, Dieu fait ce qu'il veut, il se débrouille. Et bien si vous faites ça, vous n'aurez rien. Ensuite il tombe dans le contraire, je vais tout faire moi-même et c'est moi qui vais accomplir ma descendance, je vais engendrer, et si je ne peux pas le faire avec une telle, je le ferai avec l'autre. Et à ce moment-là, Abraham veut tout faire lui-même, c'est pas bon non plus. Et Dieu finalement lui explique La juste place qui est de faire de la place à Dieu, mais d'agir quand même soi-même, et d'être dans ce juste rapport où l'on se dépouille un peu, mais où on ne renonce pas totalement à soi-même. Ce n'est pas une alliance qui demanderait à Abraham d'être rien pour que Dieu soit tout. C'est une juste collaboration entre les deux. Fais de la place à Dieu, mais fais-lui juste la place qu'il faut, ni trop, ni trop peu. Il ne faut pas tout retrancher, en prétendant ne rien faire et laisser Dieu agir tout seul, parce que là on peut tout attendre. Il ne faut pas non plus rien retrancher en prétendant agir soi-même, qu'en faisant les choses, on peut faire des choses sans Dieu, mais ces choses n'ont pas de signification, mais faire la juste place à Dieu pour pouvoir accueillir sans renoncer à soi-même. Et c'est ce que va faire Abraham dans cette circoncision qui est un symbole extraordinaire. Et ensuite, on voit au chapitre 18 ce texte si célèbre où Abraham, effectivement, sait accueillir les trois anges, là, les trois personnes qu'il invite à table d'une façon extraordinaire. Et Abraham arrive à reconnaître Dieu dans ces choses humaines. Oui, c'est bien ça la circoncision du cœur dont parlent les prophètes et ensuite le Nouveau Testament. Cette disponibilité par rapport à Dieu, cette confiance en Dieu et non pas en nous-mêmes, de compter sur la protection de Dieu et non pas sur ses propres forces, et de savoir retirer le superflu, le non-essentiel qui bloque une relation ouverte en toute confiance. Être sans méfiance, savoir être dans une relation d'immédiateté par rapport à Dieu et par rapport aux autres. C'est là que se joue la fécondité dans nos relations et dans notre vie. Et pourtant, c'est d'être aussi dans ce juste rapport à Dieu qui fait que l'on n'attend quand même pas tout de lui. Alors bien sûr, tout cela, c'est bien plus qu'un simple geste dans le corps. Et les chrétiens, je crois, ont eu raison d'abandonner le concret du geste. Parce qu'il y a un vrai risque de croire que l'essentiel, ce serait de circoncire un prépuce, alors qu'en fait, cela est totalement inutile. C'est juste un signe. L'important, c'est la démarche du cœur. Et celle-là, il ne faut pas l'oublier. Et ne pas oublier que l'homme, pour être parfait, ainsi que Dieu le demande à Abraham, pour être parfait, l'homme doit intervenir dans sa propre vie. Il doit y contribuer. Sois parfait. Et pour être complet, tu dois retirer quelque chose. C'est assez étonnant. C'est-à-dire que pour être complet, pour être parfait, l'homme doit faire quelque chose sur lui-même. Ce n'est pas par nature. Il doit agir lui-même. Ce n'est pas Dieu qui circoncit, c'est l'homme qui se circoncit. Et il doit y contribuer. Plus d'ailleurs en retranchant, en faisant de la place, qu'en ajoutant quelque chose. C'est là un peu ce paradoxe. Pour être complet, enlève quelque chose. Mais c'est Dieu qui ensuite ajoute, parce qu'il a la possibilité d'ajouter quelque chose, il a de la place, en apportant dans notre vie ce H, cette aspiration de l'esprit, mais en ne retirant quand même pas tout de même, évidemment, d'être dans cette juste relation à Dieu qui consiste à faire ce que Dieu évoque au départ, c'est cela, oui, de marcher devant la face de l'Éternel. Amen.